Emmanuel Macron nommera un nouveau Premier ministre sous 48 heures. Une annonce de Sébastien Lecornu au terme d'ultimes négociations. Le Premier ministre démissionnaire affirme que l'éventualité d'une dissolution s'éloigne après ces discussions. Naya Wateu et Marie-Laure Kiewé à la tribune de l'ONU à New York. Elles ont évoqué les difficultés rencontrées par le territoire après les violences de mai 2024 et elles ont défendu le processus de Bougival. Vous les entendrez. Un premier déplacement réussi en Europe pour la sélection de Nouvelle-Calédonie de football. Les Cagous ont gagné très tôt ce matin 2-0 face à Gibraltar. Du tennis également, Arthur Hinderknecht poursuit sa belle aventure à Shanghai. Le Français s'est qualifié pour les quarts de finale du dernier Masters 1000 de la saison face au Canadien Félix Auger-Aliassime au prochain tour. La météo, peu de changements sur la façade ouest, de larges éclaircies et des nuages venus du relief alterne. Ailleurs, les nuages portés par l'Alizé restent nombreux et continuent de déposer quelques averses le long de la côte est. L'Alizé sud-sud-est souffle autour de 20 nœuds, voire 20 à 25 nœuds et des rafales entre 30 et 35 nœuds entre Nouméa et Bouloupari et entre Puébo et Bélep. Quant aux températures, les maximales sont comprises entre 27 et 31 degrés sur l'ouest et entre 26 et 28 degrés partout ailleurs.
Bienvenue dans Info Matin pour tout savoir de l'actualité en Calédonie, en métropole et dans le monde. Bonjour Nicolas.
Bonjour Thierry, bonjour à tous.
Et la une, une journée marathon pour Sébastien Lecornu.
Oui, le Premier ministre démissionnaire a reçu les partis de gauche, socialistes, communistes et écologistes, ainsi que le socle commun, avant d'être reçu à l'Élysée par Emmanuel Macron. Et après cet entretien d'1h10 en tête-à-tête avec le chef de l'État, Sébastien Lecornu était l'invité du journal télévisé de 20h sur France 2, c'est-à-dire à 5h ce matin pour nous. Et il est revenu sur ses 27 jours avant de nommer son gouvernement, puis sa démission surprise, et surtout sur les 48 heures d'ultimes négociations autour du budget de la France et de la Nouvelle-Calédonie.
On a une assemblée qui est évidemment fragmentée avec des possibilité de compromis. Au fond, ce soir, ce que je peux dire, après mes consultations, c'est qu'il y a une majorité absolue à l'Assemblée nationale qui refuse la dissolution. Et pas que parce qu'il y aurait la peur de retourner aux urnes, peut-être vrai chez certains, mais c'est surtout parce que beaucoup de personnalités politiques, connaissant leur terrain, leur circonscription, voient bien au fond qu'une dissolution amènerait au même résultat et à une fuite en avant vers un blocage qui pourrait être davantage définitif. Et de cette majorité absolue qui refuse la dissolution, au fond, on a après plusieurs sous-blocs. On a une majorité très relative, de plusieurs formations politiques qui, au fond, sont prêts à s'accorder sur un budget commun. Des formations politiques de l'opposition, notamment de gauche, qui, au fond, veulent aussi cette stabilité, veulent un budget pour la France et pour la sécurité sociale avant la fin de l'année, mais ils mettent des conditions. Et ce que je peux donc vous dire, c'est que je sens qu'un chemin est possible encore, il est difficile, et j'ai dit au président de la République que les perspectives de dissolution s'éloignaient et que je pense que la situation permet pour le président de nommer un Premier ministre dans les 48 prochaines heures.
Sébastien Lecornu n'a donné aucune indication sur le nom du futur Premier ministre ni sur son profil. Parmi les options sur la table, son maintien à Matignon pour former un nouveau gouvernement. Il n'a ni confirmé ni infirmé cette hypothèse.
Moi, j'ai présenté ma démission lundi matin. Je pense donc démontrer que je ne cours pas après le job dans la mesure où j'ai démissionné. J'ai accepté de faire 48 heures dans des conditions qui ne sont pas que faciles. J'ai un côté moins de soldats, donc j'ai accepté évidemment la mission que le président m'a demandée. Ce soir, je considère que ma mission est terminée.
Sébastien Lecornu déclare qu'il a démissionné parce que les conditions n'étaient pas réunies pour gouverner. Ces ultimes négociations ont avancé. Elles avaient pour objectif de discuter des priorités pour le pays, priorités qu'il a rappelées sur le plateau du journal télévisé.
C'est l'objet de mes consultations pendant 48 heures. J'ai dit à chacune des forces politiques que je voyais deux urgences, trois, un budget pour l'État, un budget pour la sécurité sociale, et pardonnez-moi, pour moi, à titre personnel, ce n'est pas anecdotique, les textes sur la Nouvelle-Calédonie, puisqu'à 18 000 km d'ici, nous avons une situation institutionnelle qui ne peut pas attendre. Et ça, c'est ce que j'ai dit à chacune des formations politiques que j'ai reçues pendant 48 heures, et toutes m'ont dit qu'on ne pouvait pas prendre le risque d'avoir, enfin, toutes celles qui sont venues me voir, pour être précis, donc hors LFI et Rassemblement National, pardonnez-moi, toutes m'ont dit qu'il ne fallait pas prendre le risque de ne pas avoir de budget au 31 décembre parce que les conséquences pour la France et les Français mais seraient absolument dramatiques.
Au cours de cette interview, Sébastien Lecornu est revenu sur les dossiers prioritaires, notamment la réforme des retraites et la réouverture du débat sur cette question. Une prise de parole qui fait évidemment réagir la classe politique. Marine Le Pen, elle, n'a pas attendu cette interview pour présenter la stratégie du RN. La chef de file des députés du Rassemblement National était dans le Puy-de-Dôme la nuit dernière, au sommet de l'élevage. Elle estime qu'on est au bout de la blague et elle annonce que le RN censurera tout nouveau gouvernement.
Je suis assez insensible aux comiques de répétition. C'est la fin de la blague, quoi. Entre les démissionnaires qui démissionnent et les démissionnaires qui sont renommés, Je pense que tout ça n'est pas sérieux. Une partie de la classe politique aujourd'hui se révèle telle qu'en elle-même, c'est-à-dire des gens qui sont prêts à se couper un membre pour conserver leur place. Je censurerai tous les gouvernements jusqu'à obtenir la dissolution. Parce que je considère que chaque nouveau gouvernement est une manière de contourner la volonté populaire, de contourner l'expression du peuple souverain. Et je pense que nous pourrons faire, s'il y a des élections, un excellent résultat.
Et parmi les réactions à gauche, Jean-Luc Mélenchon a réagi à l'interview de Sébastien Lecornu. Je cite « Sébastien Lecornu dit qu'on ne peut trancher aucun sujet avant l'élection présidentielle de 2027. Solution, faisons l'élection présidentielle tout de suite. Le pays n'a pas de temps à perdre », c'est ce qu'il écrit sur le réseau social X. Fin de citation. Alors Sébastien Lecornu, on le sait, avait proposé au Socle commun de consacrer les négociations sur le budget et la Nouvelle-Calédonie. Et hier soir pour nous, après ses premières rencontres, il s'est livré à un point de presse de méthode. Le Premier ministre démissionnaire a souligné la volonté des forces politiques du centre, de la droite et de Place Publique d'avoir un budget avant le 31 décembre. C'est ce qu'il a confirmé d'ailleurs, une convergence qui éloigne les perspectives de dissolution, disait-il déjà. Il a précisé que l'accord se ferait vers un objectif de déficit public en dessous de 5% et non plus de 4,7%. Et il avait aussi évoqué l'autre sujet de préoccupation, en l'occurrence la Nouvelle-Calédonie, on l'écoute.
La Nouvelle-Calédonie, qui peut paraître loin de l'Hexagone, mais sur lesquels, vous le savez, des textes à prendre sont importants dans les jours qui viendront. Et malheureusement, la situation politique nous empêche de débuter les débats et l'adoption éventuelle de ces textes par l'Assemblée nationale et le Sénat. C'est un sujet de préoccupation majeure.
Alors, cette volonté de faire adopter la proposition de loi organique sur le report des élections provinciales avait déjà suscité, dans la journée d'hier, de nombreuses réactions calédoniennes. Lionel Sabot.
Oui, depuis Paris, le député Nicolas Metzdorf s'était félicité que, même dans la crise, la République n'oublie pas la Calédonie. Le député de la première circonscription qui nous annonçait hier matin dans ce journal qu'il avait eu confirmation de la part du président du Sénat que la proposition de loi organique qui reporte les élections provinciales pourrait finalement être examinée dès la semaine prochaine par le Sénat. À l'inverse, les deux parlementaires indépendantistes contestent cette volonté. Dans un long communiqué, le député Emmanuel Chibaou et le sénateur Robert Rowy estiment que, dans un contexte national marqué par une instabilité notoire à l'Assemblée nationale, il serait dangereux que la Nouvelle-Calédonie devienne l'otage de calculs politiques ou de décisions hâtives prises sous la pression du calendrier. Et ils affirment que rien ne s'oppose à la tenue des élections provinciales avant la fin de l'année 2025, conformément à la loi organique actuelle en vigueur. Une prise de position qui est relayée sans surprise par le bureau politique du nouveau FLNKS qui, dans un communiqué, plaide une fois encore pour le maintien des provinciales avant la fin du mois de novembre.
Alors, même si l'hypothèse d'une dissolution semble écartée ce matin, c'est ce que déclarait Sébastien Lecornu sur le plateau du JT de France 2. Dans une tribune publiée par le Figaro, le ministre démissionnaire des Outre-mer, Manuel Valls, mettait en garde hier contre le risque justement d'une dissolution pour les Outre-mer et singulièrement Lionel Sabot pour la Nouvelle-Calédonie.
Effectivement, Nicolas, dans cette tribune, Manuel Valls estime que provoquer une dissolution serait d'abord hypothéquer l'avenir de la Nouvelle-Calédonie. Il explique que pour traduire juridiquement l'accord de Bougival, il faut maintenant que le Parlement se saisisse de la proposition de loi organique pour reporter les élections provinciales et d'un projet de loi constitutionnelle. La dissolution, écrit Manuel Valls, s'empêcherait d'avancer, voire conduirait à remettre en cause l'accord. Elle serait aussi un frein à la reconstruction économique, sociale et financière, et elle mettrait en cause les projets de reprise des usines qui exploitent le nickel. Le risque que la Nouvelle-Calédonie replonge dans le chaos et la violence serait alors immense, conclut le ministre démissionnaire, qui évoque aussi de lourdes conséquences pour les chantiers engagés dans les autres territoires ultramarins.
Et on rappelle que le temps presse, la loi organique qui reporte les élections provinciales doit être promulguée avant le 2 novembre, c'est-à-dire 4 semaines avant le scrutin, qui pour l'instant est prévu au plus tard le 30 novembre. À défaut, les électeurs calédoniens seraient automatiquement convoqués pour renouveler les assemblées de province et avec un corps électoral gelé.
Radio Rythme Bleu, opinion.
Et c'est l'heure d'opinion, votre rendez-vous SMS sur Radio Rythme Bleu. Voici notre question du jour. Êtes-vous soulagé que Sébastien Lecornu ait fait de l'avenir de la Nouvelle-Calédonie l'une des priorités nationales en proposant au socle commun de concentrer les négociations sur le budget de la France et la Nouvelle-Calédonie? Si vous êtes soulagé, vous tapez 1, sinon vous tapez 2 et vous envoyez votre réponse par SMS au 3146. La réponse à notre question d'hier, à présent, nous vous demandions quelle est selon vous la solution pour sortir de la crise politique sans précédent que connaît la France. Eh bien 48% des auditeurs de Radio Rythme Bleu qui se sont exprimés par SMS se disent partisans d'une démission du président de la République. Ils sont 38% à préférer la nomination d'un nouveau Premier ministre et ils sont enfin 14% à dire être partisans d'une dissolution de l'Assemblée nationale. Merci pour votre participation et rendez-vous demain pour la réponse à la question du jour. Il est 6h passé de 41 minutes. Vous écoutez Radio Rythme Bleu. Merci d'être avec nous pour ce journal. La suite de l'actualité, ce sera l'actualité calédonienne avec notamment ses prises de parole à l'ONU à New York.
Toute l'info en trois lettres, RRB. Accueil détendu, équipe dynamique, toujours un sourire au Bilboquet Plage.
En tête à tête ou avec des amis, toujours de la place au Bilboquet Plage.
De la simple salade au saumon fumé, toujours un grand choix au Bilboquet Plage.
Du soleil de midi aux 12 coups de minuit, toujours nous servons au Bilboquet Plage.
Au Palm Beach à Lonsvata, face aux îlots, Bilboquet Plage, un plus pour le week-end. Douleur articulaire ou musculaire, mal de dos, mal de genou, le roller pur essentiel articulation et muscles réduit immédiatement et durablement la douleur grâce à sa bille massante et ses 14 huiles essentielles. C'est cliniquement prouvé. Dispositif médical en pharmacie. Pur essentiel, l'efficacité à l'état pur. Et pour la préparation et la récupération musculaire, découvrez l'huile de massage Arnica Golteri pur essentiel avant et après l'effort.
Démonter dans ta belle auto pour venir au marché de Farino.
C'est dimanche 12 octobre de 8h à midi, rendez-vous sur la place de la mairie de Farino pour le marché de mamie. Les produits de saison comme vous les aimez, framboises, crabes, confitures, miel, plantes, douceurs maison, espace food court, café, restauration sont là pour vous dans une ambiance conviviale et gourmande. Profitez aussi du coin artisanat fait main. Venez faire le plein de saveurs et de bonne humeur à Farino ce dimanche.
RRB 6h-8h, Nicolas Legrand.
Et on a parlé une fois encore de la Nouvelle-Calédonie lors de la session annuelle de la 4e commission des Nations Unies à New York. Plusieurs pétitionnaires sont intervenus à la tribune et notamment Naya Wateu et Marie-Laure Ukewe qui se sont exprimés pour une Nouvelle-Calédonie au sein de la République française. Lionel Sabot.
Naya Wateu et Marie-Laure Ukewe ont toutes deux évoqué la situation difficile de la Nouvelle-Calédonie à la suite des violences insurrectionnelles de mai 2024. Elles ont alerté l'ONU sur les ingérences étrangères dont le territoire est victime. Le destin de la Nouvelle-Calédonie appartient aux Calédoniennes et aux Calédoniens et à nul autre, a déclaré Naya Wateu, qui a aussi rappelé le passé récent et la responsabilité des indépendantistes radicaux. Elle a également défendu l'accord de Bougival et elle juge utile ses mises au point devant la 4e commission.
De rappeler aussi certains éléments de contexte et notamment aujourd'hui ce retrait de certains membres du FNKS qui ont remis cette signature. Il y avait besoin pour beaucoup d'entre eux de comprendre comment les choses s'étaient passées et finalement comment tout ça s'inscrivait dans le quotidien des Calédoniens et de faire en sorte d'être, et c'est vraiment l'enjeu de ces travaux et ça nous a été rappelé par l'ensemble des intervenants. L'ONU n'a pas vocation à trancher mais à comprendre et à amener les différentes parties prenantes à entamer les discussions et faire en sorte que les populations puissent se retrouver dans ces différents accords.
L'ONU est aujourd'hui préoccupée par les conflits internationaux et notamment par la situation de l'Ukraine ou de Gaza, mais selon Naya Wateu, il y a un réel intérêt pour la Nouvelle-Calédonie qui fait figure de précurseur.
Il y a un véritable intérêt de la part et de la commission C24 et de la 4e commission de comprendre aujourd'hui les enjeux qui persistent en Nouvelle-Calédonie parce que nous sommes aussi précurseurs sur ces travaux et cette réalité de la 4e voie qui est mise en évidence aujourd'hui. Et encore une fois, que décolonisation ne veut pas systématiquement dire indépendance. La Nouvelle-Calédonie aujourd'hui est un territoire presque pilote sur ces questions-là. Nos interlocuteurs sont très sensibles à cela et notre boulot, je considère aujourd'hui, c'est de leur amener l'information nécessaire.
Marie-Laure Ukewe a elle aussi défendu le processus de Bougival et elle a également eu l'occasion de passer d'autres messages.
D'abord, c'est le message que tous les Calédoniens et en particulier les Kanaks ne sont pas tous indépendantistes. C'était important de le souligner encore une fois devant cette assemblée. Le deuxième message, c'est sur la partie concernant les collègues indépendantistes qui sont toujours sur des problématiques passéistes de colonisation, de peuples opprimés, de libération de ce peuple kanak. Il a été pour moi l'occasion de révéler un peu la réalité concrète de la vie en Nouvelle-Calédonie, en particulier depuis mai 2024, toutes les conséquences sociales, économiques et environnementales qui du coup mettent la Nouvelle-Calédonie dans un climat d'insécurité.
Une présence à l'ONU qui permet à l'opinion internationale d'être mieux informée sur la situation réelle de la Nouvelle-Calédonie et qui sert aussi à contrer les ingérences étrangères. À noter que cette fois-ci, à côté de la délégation du nouveau FLNKS, il y avait des pétitionnaires de l'UNI qui ont défendu eux aussi l'accord de Bougival.
Vous écoutez Radio Rythme Bleu, il est 6h45.
Dans l'actualité de ce matin, également la réunion du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie qui était donc réunie hier et qui a bien sûr évoqué la situation nationale et les conséquences de la crise politique sur le territoire. L'occasion pour le porte-parole du gouvernement, Christopher Gigès, de se féliciter que la Nouvelle-Calédonie soit une priorité nationale. Écoutez.
On a eu une discussion en début de séance avec le haut-commissaire sur la situation au niveau national et les impacts pour la Nouvelle-Calédonie. Une vraie satisfaction, malgré la situation, que le Premier ministre démissionnaire Sébastien Lecornu ait pu annoncer que la Nouvelle-Calédonie faisait partie des deux grandes priorités de l'État sur le budget national et donc la Nouvelle-Calédonie. La situation est loin d'être réglée, mais au moins on sait qu'au niveau national, la situation de la Nouvelle-Calédonie est prise en considération à la fois au niveau institutionnel, mais également sur les aspects financiers. Donc on travaille efficacement en temps masqué avec la mission reconstruction pilotée par Claire Durieux pour assurer le fonctionnement normal de la Nouvelle-Calédonie.
Et lors de sa séance, le gouvernement a adopté un avant-projet de loi du pays qui vise à instaurer un régime de taxation simplifié pour les envois express de faible valeur. Pour Christopher Gigès, il s'agit d'une volonté de simplification à outrance des procédures administratives de la Nouvelle-Calédonie.
On a passé il y a 15 jours de ça une loi de simplification pour les entreprises calédoniennes. Là, c'est une loi de simplification douanière puisque chacun a eu une fois l'expérience quand il a été chercher son colis en express que le colis est encore en cours de dédouanement alors que c'est un colis à faible valeur. Donc on a mis une procédure simplifiée pour que à la fois ça fasse un gain de temps pour l'administration calédonienne et qu'on puisse faire des économies en interne et que ça fasse des économies de temps pour les Calédoniens qui vont chercher leur colis dans les différentes centrales qui s'occupent des colis express.
Et dans un tout autre domaine, le gouvernement a réorganisé la direction de la sécurité civile et de la gestion des risques, la DSCGR. Des difficultés managériales et organisationnelles ont fait l'actualité ces derniers temps et ont fragilisé son fonctionnement interne. Dans sa nouvelle organisation, la DSCGR est toujours dirigée par un directeur qui coordonne et contrôle l'action des services et des structures placées sous son autorité. Il est également le chef de corps du territorial des sapeurs-pompiers, le directeur de la DSCGR qui est désormais assisté de deux adjoints qui le suppléent en cas d'absence ou d'empêchement. En bref, dans l'actualité institutionnelle, les élus du Congrès sont convoqués en séance publique et en session extraordinaire ce matin à 9h. À l'ordre du jour, l'examen du projet de délibération habilitant le président du gouvernement, Alcide Ponga, à signer les conventions relatives à la seconde tranche du prêt garanti par l'État. Les élus examineront également le projet de délibération approuvant la convention conclue entre l'État et la Nouvelle-Calédonie relative à l'attribution d'une subvention dans le cadre de la réhabilitation et de l'extension d'entrepôts de stockage et de distribution de viande de l'OSEF à Bouraille. Au chapitre social, une mobilisation annoncée de l'enseignement catholique ce jeudi matin devant le Congrès, justement. L'ADEC dit avoir alerté le gouvernement sur l'insuffisance des taux que l'exécutif avait arrêtés pour les calculs de contributions attendus de la part de chaque collectivité depuis 2024. L'enseignement catholique qui attend également une aide exceptionnelle pour pouvoir garantir la poursuite de ses activités, notamment pour les services de cantine et l'hébergement des internes. L'ADEC indique que sa trésorerie sera épuisée à partir du 30 novembre prochain, avec un risque de voir ses plus de 500 membres de son personnel au chômage technique. Par ailleurs, notez qu'à la mi-journée, il n'y aura pas de service de cantine dans les établissements de la DEC. Toujours dans l'actualité de ce jeudi matin, la province Sud qui communique sur le dispositif Sud-Pro avec des règles qui sont désormais réajustées, Lionel.
La province Sud explique qu'elle souhaite permettre à un plus grand nombre d'entreprises locales de bénéficier de ce dispositif. Elle fait donc évoluer les règles d'attribution des crédits Sud à l'occasion de la dernière session qui s'ouvrira le 17 octobre prochain pour sortir de la logique du premier arrivé, premier servi. La province Sud a décidé de garantir à tous les inscrits sur la plateforme Sud-Pro un accès automatique à 50% de la somme de crédit Sud qu'il leur reste à utiliser. Depuis son lancement le 5 mai 2025, la plateforme Sud-Pro réunit 10 829 entreprises de la province Sud, dont 9 498 TPE, les très petites entreprises et patentées éligibles au dispositif. 5 072 ont déjà dépensé une partie de leur crédit Sud, 2 733 ne les ont pas encore utilisés. Ce sont près d'1,6 milliard de francs qui ont déjà été injectés dans l'économie locale avec le dispositif Sudpro.
Vos rendez-vous d'antenne, on va parler économie évidemment ce midi, dans les jeudis de l'économie Radio Rythme Bleu. Nous parlerons des entreprises qui prennent des initiatives malgré le contexte économique morose. Nous aurons deux invités, Mathieu Oudaimi qui a lancé la construction d'une usine de chips en Nouvelle-Calédonie et Martin Fessard, le directeur général de Total Energy qui évoquera les innovations mises en œuvre par sa société. Un jeudi de l'économie à suivre à partir de midi, juste après notre édition de la mi-journée. Et puis tout à l'heure, à 7h30, nous évoquerons le colloque prévu ce soir au Centre culturel Tchibaou sur le thème « Faisons du sport un levier de transformation sociale ». Nos invités seront Antoine Comboiré, l'un des parrains de cette conférence organisée par la Fondation Roger Cadour, ainsi que Laurent Caléja, le coprésident de la Fondation. Antoine Comboiré et Laurent Caléja dans les studios de Radio Rythme Bleu. Ce sera à suivre en direct tout à l'heure à 7h30. Et enfin, l'actualité culturelle à Nouméa, Tahiti, sera à l'honneur aujourd'hui et demain sur la place des Cocotiers. Dans le cadre des Jeudis du Centre-Ville, l'événement se déroulera exceptionnellement sur deux jours. Les Calédoniens découvriront ou redécouvriront dès 9h les artisans du Fénois, les saveurs de Tahiti, les senteurs des archipels et les ukulélés traditionnels pour une édition haute en couleurs. Les précisions de Manuya Changtai, qui est l'une des organisatrices.
Le thème que nous avons choisi cette année, c'est Tahiti au grand cœur. Et on a voulu partager notre culture. Si on ne peut pas aller à Tahiti, venez au moins à la place des Cocotiers. Quand on parle d'artisanat, on parle des chapeaux de chez nous, on parle des paniers, on parle des couronnes, on parle des parures en coquillage, on parle des pelles, on parle des kéchis. Tout ce qu'on voudrait avoir à Tahiti, mais qu'on ne peut pas se déplacer, et bien Tahiti est venu vers nous. Nous avons 10 exposants de Tahiti.
L'objectif de cet événement, c'est
nous rassembler, montrer notre joie de vivre et montrer que nous sommes une communauté qui accueille. Et on voudrait apporter un peu de bonheur, un peu de chaleur suite aux événements que nous avons rencontrés. Et nous voudrions dire à tout le monde, venez, ce n'est pas simplement les Tahitiens, c'est pour nous, tous ceux qui vivent ici en Calédonie. Ça sera un bon moment de partage.
Et la communauté polynésienne vous attendra de 9h à 19h aujourd'hui et demain sur la place des Cocotiers. Il est 6h52, vous écoutez Radio Rythme Bleu, on marque une nouvelle pause dans ce journal avant de voir la suite de l'actualité et notamment le procès de Cédric Jubilard qui continue.
RRB 6h-8h, Nicolas Legrand.
Une sortie en mer ? EIM, spécialiste de la maintenance marine multimarque depuis 1987. Yanmar est agréé Suzuki et Sea-Doo. Un groupe électrogène, un moteur inboard ou hors-bord ? EIM Marine à Nouville-Plaisance. Plus d'infos au 28 60 52 et sur Facebook.
Vous êtes une entreprise, association ou collectivité ? Vous réduisez, réutilisez, recyclez les déchets ou vous souhaitez vous lancer dans cette démarche ? La Province Sud et l'ADEME peuvent financer votre projet. Pour cela, il suffit de répondre à l'appel à projet Économie Circulaire avant le 14 novembre. Rendez-vous sur le site province-sud.nc. La Province Sud, agir pour l'avenir.
Toute l'info en trois lettres. RRB.
La suite d'Info Matin, on retrouve Nicolas Legrand.
Et le président égyptien qui fait état de messages très encourageants en provenance de la ville de Sharm el-Sheikh où se déroulent les négociations de paix pour Gaza. L'émissaire spécial des États-Unis et des représentants qataris et turcs sont arrivés sur place aujourd'hui. Ces discussions portent sur la mise en œuvre du plan de cessez-le-feu présenté la semaine dernière par la Maison Blanche. Plan approuvé par Israël, mais en partie seulement par le Hamas. Et puis pendant ce temps-là, une manifestation pro-Hamas dans les rues de Vénissieux, 2 ans jour pour jour après les attaques du 7 octobre 2023 en Israël. Un rassemblement sauvage hier dans cette ville de la banlieue lyonnaise, à l'initiative notamment d'un groupe antifasciste. Des slogans célébrant cette attaque ont été proférés. La préfète du Rhône saisit la justice. Le reportage de Jean-Baptiste Marty pour Europe 1.
Et vive le déluge d'Al-Aqsa. Voilà ce que scande la petite centaine de manifestants pro-palestiniens. Certains drapeaux verts, blancs, noirs, rouges accrochés autour du cou. Le déluge d'Al-Aqsa, nom donné à la série d'attaques terroristes du Hamas contre Israël le 7 octobre 2023 et qui ont fait plus de 1200 morts. Des propos repris donc en chœur par ces manifestants hier soir dans les rues de Vénissieux, le jour même de la date de commémoration des massacres survenus il y a 2 ans désormais. Slogan condamné ce matin par Marion Maréchal qui a réagi sur le réseau social X. Bientôt, ils fêteront le Bataclan, s'est insurgée la députée européenne et chef du mouvement Identité et Liberté. De son côté, Tiffany Joncourt, députée Rassemblement National du Rhône, fait part de son effroi. Contactée pour savoir si une enquête a été ouverte, le parquet de Lyon n'a pour le moment pas répondu aux sollicitations d'Europe 1.
Jean-Baptiste Marty pour Europe 1. Et ce matin, l'université parisienne de la Sorbonne porte plainte après la publication d'un message antisémite sur les réseaux sociaux par un collectif d'étudiants. Dans sa première publication postée hier sur sa page, le comité d'action Paris 3 affirmait, je cite, « L'ouverture de ce compte est la deuxième chose la plus glorieuse à être arrivée un 7 octobre », référence directe aux attaques du Hamas en Israël il y a 2 ans. Dans l'actualité judiciaire, au 11e jour du procès de Cédric Jubilard devant les assises du Tarn, le témoignage aujourd'hui de la mère de l'accusé. Loin de défendre corps et âme son fils, dont elle ne s'est jamais vraiment occupée depuis sa naissance, Nadine Jubilard, une femme d'une cinquantaine d'années, n'a pas caché ses doutes sur la culpabilité du père de famille. Le récit de Charles Huillier pour Europe 1.
Avec son tailleur bleu, ses lunettes et son piercing sur le nez, cette femme de 54 ans s'est présentée très dignement à la barre. « Je suis ici pour mes petits-enfants », déclame-t-elle, sans adresser un seul regard vers le box où se trouve son fils impassible. Puis Nadine, c'est son prénom, évoque le jour de la disparition. « Très tôt le matin, dit-elle, Cédric m'a dit de venir à la maison. Je le trouve très agité. Il me dit « Delphine a disparu ». Puis elle se remémore les semaines qui ont précédé cet épisode, notamment cet esclandre de Cédric sur un parking. Il tient devant Nadine des propos très précis sur ce qu'il compte faire à Delphine, l'épouse infidèle. Des propos qu'il a tenté de minimiser durant l'instruction. Mais Maître Boguet, avocat des enfants Jubilard, n'est pas dupe. Et les paroles rappelées par Nadine ce matin n'ont fait que renforcer ses suspicions.
Cédric Jubilard nous dit oui, sur un coup de tête, j'ai pu dire que quand elle m'énervait, j'avais envie de la tuer. Je pense qu'effectivement, Nadine, c'est pas tout à fait ce que elle a entendu, puisque elle m'énerve, je vais la tuer et je vais l'enterrer à un endroit où personne ne la retrouvera jamais.
Des propos très compromettants pour Cédric Jubilard et pour ses avocats, restés mutiques durant tout le témoignage de la mère ce matin.
Charles Huillier à la cour d'assises du Tarn pour Europe 1. Assumez votre acte, j'ai honte pour vous. La charge de Gisèle Pellicot à l'encontre du seul accusé au procès en appel des viols de Mazan. Cet ancien ouvrier, le seul homme qui a contesté le verdict rendu en première instance dans cette affaire, maintient qu'il a été piégé par Dominique Pellicot et qu'il ignorait l'absence de consentement de la victime. Le verdict est attendu demain. Il est 6h57, vous écoutez Radio Rythme Bleu. On va marquer une dernière pause publicitaire dans ce journal avant de voir toute l'actualité sportive.
RRB, pour être au cœur de l'actualité. Le nouveau SUV Subaru Forester, un design renouvelé, moderne et affirmé. Le nouveau SUV Subaru Forester, 182 chevaux sous le capot, 4x4 permanent et technologie EyeSight pour une sécurité et un confort incomparables. Le nouveau SUV Subaru Forester, chaque trajet devient un moment de sérénité et de maîtrise. Venez le découvrir et l'essayer au village automobile au PK4 à Nouméa ou chez NC Motors à Koné. Le nouveau Subaru Forester, puissance, style et innovation réunis dans un SUV unique.
Construisons notre pays, économisons l'énergie.
En octobre, Yubai Kotex présente l'opération Uni pour elle. Pour chaque paquet de protection acheté, 20 francs seront reversés à l'association Amazon Nouvelle-Calédonie au profit des familles de femmes touchées par la maladie. Soutenez autrement celles qui luttent chaque jour avec Yubai Kotex. Plus d'informations sur le Facebook Sakebon NC.
RRB, première radio d'information. RRB, une radio d'opinion.
L'actualité sportive, on retrouve Nicolas Legrand.
Du football et la sélection de Nouvelle-Calédonie qui affrontait ce matin en match amical Gibraltar, Lionel Sabot.
Oui, il s'agissait du premier match officiel de la sélection calédonienne sur le continent européen. Et les Calédoniens qui affrontaient Gibraltar en amical. C'était un match dans le cadre de la préparation au prochain barrage de qualification pour la Coupe du Monde. Bien, les Calédoniens, pour une première sortie en Europe, s'en sont très bien sortis. Ils se sont imposés 2-0. Bussigné, Katrawa à l'heure de jeu et Awanigye dans les arrêts de jeu de cette rencontre. Première sortie donc sur le continent européen pour la sélection A de Nouvelle-Calédonie et première victoire 2-0 face à Gibraltar.
Du football encore, Lionel, mais chez les dames avec la suite de la première journée de la phase de Ligue des Champions.
Effectivement, et le Paris Saint-Germain qui est en déplacement ce matin sur la pelouse des Allemandes de Wolfsburg. C'est la mi-temps et ça ne se passe pas bien pour les Parisiennes qui sont menées, ben oui, 2-0. On va rappeler qu'hier, Lyon s'était imposé 2-1 sur la pelouse d'Arsenal et que le Paris FC avait concédé le match nul 2-0 à domicile devant les Belges de Louvain.
On termine avec du tennis et une bonne nouvelle côté tricolore puisqu'il y aura un Français en quart de finale du Masters 1000 de Shanghai.
Effectivement, Arthur Rinderknecht est 54e mondial, a encore bousculé la logique du classement en battant en 2-7, 6-3, 7-6. Le Tchèque Jiří Lehka qui est 19e au classement ATP. Le Français, après avoir écarté au tour précédent, ce n'est pas rien, le numéro 3 mondial Alexander Zverev s'offre le tout premier quart de finale de sa carrière en Masters 1000 à l'âge de 30 ans. Sa présence en quart de finale contre le Canadien Félix Auger Aliassim, qui est 13e mondial, l'assure de monter au moins au 43e rang mondial au prochain classement ATP. Sachez pour la petite histoire qu'Arthur Rinderknecht jouera les quarts de finale, tout comme son cousin, le monégasque Valentin Vachereau, on en parlait hier, il s'était qualifié hier. S'ils veulent se rencontrer dans ce tournoi, les deux couses devront se qualifier pour la finale. Bah oui, ils sont pas dans la même partie de tableau.
Merci beaucoup Lionel Sabot, on termine ce journal avec la météo.
La météo avec la 7. 6 magasins sur l'ensemble du territoire pour vous accompagner dans tous vos projets. La 7, construire, rénover, aménager.
Et la météo, c'est avec vous Thierry.
Oui Nicolas, ce matin sur l'Ouest, le début de matinée sera sec et bien ensoleillé, mais les nuages venus du relief se font au fil des heures plus nombreux. Sur le reste du territoire, le ciel sera passablement nuageux et des averses viendront se bloquer sur les versants est du relief. Quelques averses circuleront également au Loyauté. Sur l'Ouest, le vent, lui, sera orienté sud-est autour des 10 à 15 nœuds. Ailleurs, est à sud-est, ou proche des 20 nœuds, alors, il va se renforcer avec des rafales à 30 nœuds. Plus sur la pointe nord avec 20 à 25 nœuds et des rafales jusqu'à 35 nœuds. Cet après-midi, peu de changements sur la façade ouest. Large éclaircie et nuages venus du relief alterneront. Ailleurs, les nuages portés par l'Alizée resteront nombreux et continueront de déposer quelques averses le long de la côte est. L'Alizée pour cet après-midi, est-sud-est, autour des 20 nœuds, voire 20-25 nœuds, des rafales jusqu'à 35 nœuds entre Nouméa et Bouloupari, ainsi que Puebo jusqu'à Bélep. Sur le nord-ouest, le vent restera un peu plus faible, autour des 15 nœuds. Les températures, elles sont comprises entre 26 et 28 degrés, jusqu'à 27, voire 31 degrés. Ce sera sur l'ouest, Nicolas.
Merci beaucoup Thierry, merci à tous d'avoir écouté ce journal. Dans un instant, le rappel des titres de l'actualité, puis le billet d'humeur de la rédaction avec Elisabeth Noir. Et ensuite, vous avez un avis. Vous nous appellerez au 25 46 46. A tout de suite.
Toute l'info en trois lettres, RRB.